Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Mélanie Chalandon, Marguerite Caton, Corentin Mansois, réalisée par Rafik Zeni, une mise en onde ce matin par Ludovic Augier. Nouvelle série consacrée aux enfants, aux dangers, aux menaces qui les guettent, mais aussi aux moyens que l'on peut mettre en place pour les protéger. On parlera de la question de la pédophilie dans l'Église catholique, des difficultés auxquelles ils sont exposés lorsqu'ils émigrent, du réchauffement climatique pour lequel ils se mobilisent plus que jamais au point de faire la leçon à leurs aînés. Mais aujourd'hui, place à la délicate question du retour des enfants de djihadistes, des lionceaux de Daesh aux jeunes yézidis. Une jeunesse perdue, point d'interrogation, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Nous souhaitons frapper les ennemis de Dieu, les faire exploser, même si ce sont nos propres parents.
Si Dieu le veut, nous allons frapper les mécréants.
Leur enseignement était nul. Ils nous frappaient et ils disaient « faites le djihad ».
Ils disaient « venez vous battre dans les rangs de l'État islamique ». Nous sommes ici pour toujours. Du coup, on a arrêté d'aller à l'école.
Je suis triste parce que je vais quitter ma terre, l'Irak. Et je suis heureux parce que je vais retrouver ma mère, mes amis et ma famille. J'ai perdu mon enfance. C'était trop tous ces malheurs et tous ces problèmes pour un enfant, pour quelqu'un d'aussi jeune que moi. C'était vraiment trop.
Du documentaire « Les enfants perdus du califat ». Au Levant, l'État islamique vit ses dernières heures. En effet, les derniers djihadistes sont désormais retranchés dans une petite poche de l'est de la Syrie, Baghouz, assiégée par les forces démocratiques syriennes. La défaite militaire de Daesh pose la question des revenants et de leur prise en charge par la justice et les justices des pays dont ils sont originaires. Mais elle pose également celle des enfants et des familles de djihadistes, ceux partis très jeunes avec leurs parents pour gagner le califat pour lequel parfois ils se sont battus, ceux qu'on appelle les lionceaux, mais aussi ceux qui sont nés là-bas et dont les parents sont soit morts, soit derrière les barreaux, soit amenés à s'y retrouver. Alors que faire de ces enfants? Comment les prendre en charge? Peut-on espérer qu'ils mènent une vie normale? Et de quoi était faite leur vie sous le règne du califat? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous. D'abord, ici à Paris, Patrick Baudouin, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin, Patrick Baudouin. Vous êtes avocat et président d'honneur et conseiller juridique de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. À nos côtés, en duplex depuis Beyrouth, Sophia Amara, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, documentariste, vous êtes basé à Beyrouth et c'est vous qui avez réalisé ce reportage, ce documentaire dont on entendait quelques extraits, Les enfants perdus du califat, qui d'ailleurs avait reçu le prix Hamad du Festival de télévision de Monte-Carlo. Et puis vous êtes également auteur de Baghdadi, calife de la terreur, qui était paru chez Stock. On va commencer avec vous, si vous le voulez bien, Sophia Amara, parce que depuis des mois, je le disais, à mesure que Daesh recule militairement, eh bien, les familles des djihadistes sont progressivement déplacées vers des camps, notamment par exemple l'un d'eux, le camp d'Al-Hol dans la province syrienne d'Asaké. C'est un camp où finalement les choses sont organisées par les forces démocratiques syriennes, cette coalition de forces arabo-kurdes alliées aux occidentaux. Est-ce qu'aujourd'hui, Sophia Amara, les forces démocratiques syriennes ont les moyens de gérer ces populations retenues dans ces camps, ou est-ce qu'il existe un risque de les voir s'en échapper à la faveur peut-être d'un chaos provoqué par une surpopulation, Sophia Amara?
C'est une très bonne question et effectivement, ces FDS, ces forces démocratiques syriennes, pour l'instant tiennent ces rescapés du califat, qu'il s'agisse d'enfants ou de femmes ou même de djihadistes qui se sont rendus ou qui ont été faits prisonniers par ces forces démocratiques syriennes qui sont en train de faire tomber le dernier lambeau de ce califat présumé de Daesh. Aujourd'hui, elles ont encore les moyens de les tenir. Demain, ça ne sera peut-être pas le cas. Je vous rappelle que les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient retirer leurs troupes de Syrie et que finalement ces forces kurdes, qui ne sont pas des forces conventionnelles, n'ont peut-être pas les moyens de tenir ces djihadistes, femmes ou hommes, qui pourraient se fondre dans la nature et que l'on pourrait retrouver en Europe et en France notamment pour des opérations terroristes. Et c'est évidemment le gros risque et c'est ça qui joue évidemment en la faveur du retour de ces djihadistes, terroristes ou simples partisans de Daesh, pour les tenir sur un territoire national, le territoire français, qui est un État, tandis que les FDS sont une milice, finalement, qui a certes joué un rôle primordial dans la guerre contre Daesh, mais qui, au final, n'est pas une entité nationale étatique.
Sophia Amara, ce qu'on peut aussi peut-être dire, c'est qu'aujourd'hui, les conditions de vie, d'abord, évidemment, sont difficiles dans ces camps, mais la cohabitation aussi entre les différentes familles sont difficiles. Il y a des familles qui viennent d'un peu partout, d'Europe, d'Asie centrale. Il y a des personnes, évidemment, qui sont originaires d'Irak et de Syrie, et la cohabitation est très difficile, et on le voit à l'intérieur des camps, Sophia Amara.
Mais pire que cela, non seulement il y a, puisqu'on parle des enfants, il doit y avoir environ 2500 enfants étrangers issus de 30 pays qui sont dans les trois principaux camps de déplacés du nord-est syrien. Il y a encore plus de camps, il y en a plus des camps, il y en a une dizaine. Mais d'une part, il y a des rescapés, mais il y a aussi des djihadistes qui ont commis des crimes. Donc évidemment, tout ce monde-là est parqué dans des camps. Et aujourd'hui, non seulement il y a une bourse pour les rescapés ou pour ces prisonniers qui ont un statut un peu gris, on ne sait pas encore s'ils vont être condamnés ou pas, relâchés, rendus à leur pays d'origine, mais une cohabitation très difficile. Il y a eu des femmes qui ont été battues par d'autres femmes parce qu'elles ont annoncé qu'elles reniaient les valeurs de Daesh, les valeurs du califat, et dans la nuit, comme ce qu'on voyait dans les prisons irakiennes en 2006-2007, dans la nuit, elles ont eu soit le bras brisé, soit elles ont été frappées par des djihadistes femmes pures et dures qui lui reprochaient d'avoir renié les valeurs de l'organisation terroriste.
Patrick Baudouin, certaines familles évidemment qu'on retrouve dans ces camps sont des familles d'origine française. Comment le gouvernement prévoit de rapatrier ces femmes et ces enfants qui sont des Français?
Vous savez qu'il y a beaucoup d'hésitation du côté français, comme d'autres pays européens d'ailleurs, et assez peu d'empressement en réalité à voir revenir ces djihadistes, les familles, les femmes, les enfants. Alors, c'est assez difficile de savoir quelle est, même à la date d'aujourd'hui, la politique du gouvernement français, qui parle beaucoup de cas par cas. Bon, je pense qu'en résumé, il faut peut-être distinguer les hommes, les femmes et les enfants. Pour les hommes, la position officielle, c'est qu'ils peuvent être jugés en Irak. Ça a été réaffirmé récemment par le président Macron quand ils sont
lors de
Irak,
la visite du président
lors de la
irakien,
visite du président
la semaine
irakien,
dernière.
Tout à fait. Ce qui pose un vrai problème parce que la justice irakienne est une justice parfaitement expéditive, donc qui ne respecte pas le droit au procès équitable, et en plus avec des risques d'application de la peine de mort, mais enfin ça serait plutôt la version française actuelle. Pour les femmes qui ont elles-mêmes participé au djihad, le raisonnement est à peu près le même. S'il s'agit de femmes djihadistes, il n'y a pas vraiment de distinction qui se trouve faite. La vraie question, c'est celle effectivement des enfants. Et la politique française jusqu'à présent consistait à dire oui, les enfants peuvent revenir en France à condition que les mères avec lesquelles se trouvent ces enfants en Irak ou en Syrie donnent leur accord pour ce retour. Mais on voit très très bien qu'il y a encore une fois énormément d'hésitation, ce qui est très lié aussi à un problème d'opinion publique française qui majoritairement est très hostile au retour des djihadistes et même malheureusement des enfants des djihadistes.
Si on prend un cas très particulier, Patrick Baudouin, que vous connaissez, c'est un dossier que vous suivez, c'est celui de Mélina Bouguédir, qui est une jeune française qui a été condamnée l'année dernière à 20 ans de prison pour avoir rejoint Daesh. Elle a trois aînés âgés de, je crois, 4, 6 et 8 ans qui ont été rapatriés déjà en France, et elle a encore un bébé d'à peine 2 ans, je crois, qui vit avec elle en prison à Bagdad. La première question, c'est pourquoi les grands ont été autorisés à rentrer et comment s'est organisé leur rapatriement aujourd'hui? Ils vivent où?
Alors effectivement, il faut faire la distinction entre les trois aînés et puis le plus jeune de ses enfants. Les trois aînés sont revenus donc en France. Il y a un mécanisme assez classique et qui fonctionne bien d'ailleurs, lorsqu'il s'agit d'enfants qui sont de retour, que ce soit d'ailleurs des enfants djihadistes ou d'autres enfants qui connaissent des problèmes, en ce qui les concerne en tout cas, des examens médicaux, c'est la première chose. Ils sont évidemment suivis, surveillés de très près sur le plan médical, et ce pendant plusieurs mois. Et puis, il y a les mécanismes d'aide sociale à l'enfance, qui dépendent souvent d'ailleurs des départements, et il y a les juges pour enfants. Donc, c'est tout cet ensemble qui va examiner la situation particulière, et ça a été le cas là pour les trois enfants, et qui va généralement conduire à un placement en famille d'accueil, avec une possibilité de visite pour des membres de la famille, en particulier les grands-parents. Par exemple, si on pense à Mélina Bouguédir, les grands-parents suivent de très près et sont très très attentifs à la situation des petits-enfants, donc obtiennent à ce moment-là un droit de visite, et par la suite on peut imaginer même un placement qui se trouve à ce moment-là transféré chez des membres de la famille. Pour ce qui est de la plus jeune, la situation a été beaucoup plus compliquée parce que...
Déjà, elle n'a pas de papier,
elle est née là-bas, elle n'a pas de papier, et surtout la mère ne souhaitait pas, malgré tout, voir partir cet enfant qui était un bébé, qui était en très bas âge, et ce qui donc entravait quelque peu aussi la possibilité d'un retour en France. La vraie question aujourd'hui, c'est que j'ai été saisi par les grands-parents, je suis intervenu auprès du Quai d'Orsay, les conditions de détention de la mère et de ce petit bébé qui sont épouvantables sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire, sur le plan de la promiscuité. C'est quelque chose d'inacceptable pour de toute façon un être humain, que ce soit le père ou la mère. D'ailleurs, les conditions de détention sont terribles, mais à plus forte raison pour un enfant en aussi bas âge.
Sophia Amara, sur la question de ces femmes, effectivement, Patrick Baudouin, ce qu'il nous dit, c'est que beaucoup d'entre elles, lorsque ce sont des enfants en très bas âge, refusent évidemment qu'ils s'en aillent. Elles veulent absolument garder leur bébé. Ce qui veut dire quand même aussi que du côté, par exemple, de l'Irak, où est retenue Mélina Bouguédir, on autorise les femmes à garder leurs enfants, en tout cas lorsqu'ils sont très jeunes, Sophia Marin.
Tout à fait. J'ai pu visiter ces prisons, qu'il s'agisse de prisons de femmes ou de prisons pour mineurs. C'est des conditions de détention qui sont absolument abominables. La promiscuité, la nourriture est insuffisante. Mais j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire concernant Mélina. Certaines mamans, certes, ne veulent pas laisser partir leurs enfants parce qu'en fait, elles les utilisent comme des boucliers. Parce que c'est vrai qu'en Irak, par exemple, les mamans ont le droit de garder leurs enfants jusqu'à l'âge de 3 ans, en principe. Hein. Mais il y a des enfants qui ont plus de 3 ans, ou moins d'ailleurs, et qui refusent de laisser partir leurs enfants, rentrer leurs enfants en France, parce qu'elles les utilisent comme des boucliers. Je donnerai le cas d'une djihadiste avec qui j'étais en contact, alors qu'elle était encore à Raqqa, donc capitale syrienne de l'État islamique, Amandine Lecoz, qui est du Val d'Oise, convertie et qui a rejoint le califat avec beaucoup de conviction, et qui me disait, et qui m'a d'ailleurs un jour, on a essayé de l'exfiltrer parce qu'elle n'en pouvait plus, mais au final elle a décidé que nous étions des mécréants et qu'on lui avait demandé, parce qu'on voulait la filmer à l'époque, de retirer son tchador, et elle avait dit qu'elle ne le retirerait pas, et je lui avais rappelé à l'époque qu'en France le tchador était interdit, et elle avait raccroché en disant « Je n'ai rien à faire de vos lois de mécréants, et je vais vous dénoncer à Daesh en me parlant. » Et donc cette Amandine Lecoz, qu'on a pu voir il n'y a pas longtemps sur les antennes de France 2, disait simplement qu'elle ne laisserait pas partir ses enfants parce qu'il lui permettrait justement d'obtenir la clémence de ses futurs juges, ou en tout cas de ses geôliers. Donc en fait, c'est des enfants boucliers, et qui d'ailleurs ne sont pas une assurance vie, parce que, et même en qu'il s'agisse de condamnations extrêmes, c'est-à-dire la peine capitale ou à des peines de prison, ils seront au final de toute manière séparés. Et dans le cas d'Amandine Lecoz, par exemple, ses enfants ou son enfant serait bien mieux chez ses grands-parents, avec qui j'ai été longtemps en contact, Joséphine et Daniel, qui n'en pouvaient plus de ne pas avoir des nouvelles de leur fille et de leur petite-fille ou de leurs petits-enfants. Et hélas, il y a un égoïsme clair, c'est-à-dire qu'elle utilise l'enfant au lieu de le renvoyer en France chez des grands-parents aimants et qui n'attendent qu'à serrer dans leurs bras ce petit enfant qui est évidemment une victime. Hein.
Patrick Baudouin, qu'est-ce qu'on peut faire face à cela? Parce que Sophia Amara nous dit, elles utilisent, certaines d'entre elles, en tout cas, utilisent leurs enfants comme boucliers. Du point de vue du droit, que dit le droit sur la séparation entre les enfants et leur mère? Dans le cas où on considère qu'au fond, alors on ne va pas juger la position de ces mères, qui évidemment veulent garder leur enfant, mais quand c'est dans l'intérêt de l'enfant, est-ce qu'il y a quelque chose du point de vue du droit international qui nous permet de forcer cette séparation, Patrick Baudouin?
Là, ça me paraît extrêmement difficile. difficile, si vous voulez. Le cas de figure qui vient d'être décrit à juste titre montre toute la complexité du problème et l'absence de solution. Cette personne qui garde l'enfant en quelque sorte en otage pour monnayer un peu ce qu'elle souhaite, si elle se trouvait en France, il pourrait y avoir un examen de la situation et on pourrait dire c'est une mère qui n'est pas digne de conserver son enfant après une enquête sociale, etc. La difficulté, c'est que cette mère se trouve sur le territoire irakien et que on n'a pas du tout les mêmes possibilités. Moi, je crois que ça renvoie à un vrai problème qui est plus généralement la politique des autorités françaises par rapport à ces djihadistes qui se trouvent sur les territoires irakiens et syriens. Ce qui vient d'être évoqué est une des raisons, parmi d'autres, pour lesquelles je plaide, nous plaidons, nous sommes quelques-uns à plaider, pour que tous ces djihadistes d'origine française soient transférés en France pour être jugés en France. Ce qui, à ce moment-là, permettrait justement de résoudre globalement les problèmes qu'on vient d'évoquer, aussi bien les problèmes par rapport aux enfants que par rapport aux parents, puisque là, tous les mécanismes, encore une fois, assez perfectionnés que nous connaissons dans notre pays d'aide sociale à l'enfance, pourraient être mis en œuvre, et les parents, que ce soit les hommes, et là, en l'occurrence, les femmes, pourraient être jugés dans les conditions du droit au procès équitable. Voilà, tant que l'attitude des autorités françaises très ambiguë consiste à dire, puisque les crimes ont été commis en Irak et que les Irakiens revendiquent le droit de les juger, bah, le droit international, c'est vrai, prévoit cela. Et que ça arrange bien l'État français et qui ne regarde pas l'autre volet qui est un autre volet du droit international aussi, qui dit que pour les ressortissants d'un État, on doit veiller à ce qu'ils aient la possibilité d'être jugés équitablement. Il faut quand même dire juste un mot là-dessus. Un procès en Irak, et je pense que la correspondante que nous avons avec nous, le plaisir d'avoir en ligne, va confirmer ce propos, c'est 20 minutes à 30 minutes pour juger quelqu'un lors de devant un tribunal et prononcer une peine qui va être une peine de perpétuité ramenée peut-être à 20 ans et parfois la peine de mort, sans assistance réelle d'avocat, sans instruction sérieuse. Donc on ne peut pas dire là qu'il y ait ce minimum de respect.
Dans le cas par exemple de Mélina Bouguédir, elle a eu une première condamnation de quelques mois dans un premier temps pour rentrée illégale sur le territoire et puis finalement elle était sur le point d'être libérée, donc absolument, sur le point possiblement de rentrer en France, et puis finalement elle a écopé d'une nouvelle condamnation, 20 ans de prison.
Oui, absolument. Alors, il y a un appel, mais pour l'instant, c'est cela.
Sophia Amara, sur ce côté expéditif du procès irakien.
Oui, tout à fait. Ce sont des procès à la chaîne, expéditifs. Alors, 20 minutes, peut-être pas. Il y a, pour certaines djihadistes, ou femmes ou hommes, d'ailleurs, qui ont eu droit à des procès un peu plus longs. Mais évidemment, les conditions d'un procès équitable sont loin d'être réunies en Irak. Et donc, par conséquent, effectivement, si la juridiction prévoit que les crimes commis dans un pays étranger doivent être punis ou jugés dans ce pays, il y a aussi la nécessité pour le pays dont est ressortissant la personne qui a commis le crime, de vérifier qu'il a droit à un procès équitable, ce qui n'est évidemment absolument pas le cas en Irak. Voilà. Donc, bien sûr que c'est un problème. Après, la position de la France reste ambiguë à ce jour, c'est que les adultes, en tout cas ce qui semble être pour l'instant la position du Quai d'Orsay, c'est que les adultes restent sur place et les enfants, le cas du rapatriement des enfants, on ne parle ici que d'une centaine d'enfants, peut-être même un peu moins. Le Quai d'Orsay avance le chiffre de 71 mineurs. Donc ça n'est pas énorme, mais toujours est-il que pour les enfants, évidemment, est prévue une stratégie du cas par cas avec une priorité donnée aux orphelins qui sont minoritaires dans ce groupe de 70 ou 80 enfants français retenus sur la zone irako-syrienne.
Alors parmi eux, justement, Obeida, quasiment 2 ans, pas tout à fait, Amar, presque 4, font partie de ces enfants donc présents dans le camp de Syriens que j'évoquais tout à l'heure, Al-Hol. Ils sont seuls, visiblement dans un état de santé particulièrement préoccupant. Ils souffrent de malnutrition. Ils auraient été victimes aussi de maltraitance de la part de la femme syrienne qui les a déposés au camp. Pour ce qui est de la mère originaire de la région lilloise, elle a probablement, c'est ce qu'on pense, perdu la vie dans un bombardement de la coalition. Quant au père, c'est un djihadiste originaire, lui, d'Allemagne, qui s'est rendu aux forces kurdes le 1er février dernier. Ses enfants n'ont de fait pas de papier, donc pas d'existence légale. Et récemment, leurs grands-parents ont lancé un appel pour les récupérer. On va retrouver justement leur grand-mère. Elle est au micro de Roman Bernstein.
J'ai un petit-fils de 4 ans, 2 ans, 8 mois. Les photos et les vidéos que j'ai vues, ils n'ont pas l'air d'être des enfants dangereux. Hein. Ils ont l'air d'être des enfants qui jouent, parce que j'ai vu des photos avec des Legos, des trains. Ils regardaient des dessins animés. Ils avaient l'air d'être des enfants comme des enfants normaux, voilà, non endoctrinés. Alors bien sûr, peut-être plus tard, à l'âge de 10-12 ans, ça devient peut-être plus compliqué, effectivement, hein, s'ils restent dans cette idéologie. Donc c'est pour ça qu'il est peut-être temps de les faire tous rentrer le plus rapidement possible, parce que les 3/4 sur 500 enfants ont moins de 5 ans. Alors on peut en avoir peur, effectivement, mais ce sont des enfants de la République. Donc s'ils ont été endoctrinés, il faut qu'ils rentrent le plus rapidement possible en France et puis qu'on ait des structures, et je pense qu'on en a les moyens, on a quand même des structures en France pour prendre en charge des enfants et qu'ils puissent se reconstruire, qu'ils puissent retrouver une vie normale, hein, même si ça devrait prendre du temps, mais il faut s'en donner les moyens.
Voilà, Lydie Manning-Keda au micro de Roman Bernstein. Patrick Baudouin, ces enfants, je le disais, n'ont pas d'existence légale puisque leurs parents ne les ont pas officiellement déclarés, donc ils sont de fait apatrides. Du point de vue du droit international, comment on règle ce type de problème? Qui doit s'occuper du sort de ces enfants qui sont des apatrides?
Je pense que si on va raisonner sur la France, c'est vrai pour les autres pays, notamment européens, qui connaissent le même type de problème. C'est à la France, encore une fois, de s'occuper de cela, de faire en sorte que ces enfants puissent revenir.
Est-ce qu'elle y est contrainte puisqu'ils n'ont pas de papier français?
Ils n'ont pas de papier français, mais on tourne toujours autour du même problème, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils reviennent en France, qu'on régularise leur situation en France. Il est certain que tant qu'ils restent en Irak, les choses sont extrêmement difficiles, même si on peut faire intervenir les services consulaires, hein, c'est pas défendu tout de même, et essayer de régulariser des situations. Moi, je voudrais rebondir sur un point qui me paraît assez important, qui est le fait qu'en réalité, la plupart de ces enfants sont des enfants très jeunes. Alors, la première remarque qui s'impose, c'est quand même de dire qu'on n'est pas djihadiste, on ne naît pas terroriste, on ne naît pas barbare. Donc ces enfants, et c'était très très bien dit là, de la part de l'intervenante qu'on vient d'entendre, il est beaucoup plus facile de les reprendre en main quand ils sont en bas âge, c'est certain, que quand ils arrivent à un âge plus avancé. Donc ça c'est le premier point, c'est pour ça qu'il faut quand même fustiger, je crois, l'attitude des autorités françaises aussi timorées par rapport à cette question. Ce sont, ça a été dit très bien, des enfants de la République. Ces enfants-là, il y a une priorité, c'est de tout faire pour les sauver de ce qui les menace, c'est-à-dire plus le temps passera et plus effectivement il pourra y avoir un risque de dangerosité. J'observe d'ailleurs qu'il y a des avocats qui, à juste titre, ont saisi le comité des droits de l'enfant qui dépend des Nations Unies, puisque la France, il faut quand même le rappeler, fort heureusement, a ratifié une convention sur la protection des droits de l'enfant. Et là, c'est vraiment une enfance en danger, donc il faut pas barguigner là-dessus, je dirais. Après, juste pour compléter simplement le propos, peut-être y a-t-il, mais ça je n'ai aucun élément chiffré, peut-être y a-t-il des enfants plus âgés qui étaient partis avec les parents, qui sont maintenant des adolescents. Bon, si, là, parce qu'on brandit souvent cette menace de la dangerosité potentiel même des enfants s'ils reviennent en France, mais il faut savoir que s'ils ont entre 13 et 16 ans, ils peuvent aller dans des centres d'éducation surveillés, donc là il y a aussi des mécanismes qui peuvent être mis en œuvre s'ils reviennent en France, et au-delà de 16 ans, si eux-mêmes se sont rendus coupables ou peuvent être soupçonnés de s'être rendus coupables de certains agissements, ils peuvent être accessibles à des sanctions pénales. Donc on a tous les mécanismes en France pour essayer de remettre, je dirais, une mauvaise expression peut-être, mais dans le droit chemin, des enfants qui sont aujourd'hui effectivement dans des situations de dangerosité certaine.
On reviendra évidemment sur ces adolescents qui ont participé effectivement au combat et qui potentiellement peuvent avoir à faire face à cette justice. Mais Sophia Amara, je posais la question du point de vue du droit, posons la même question du point de vue purement politique, Sophia Amara. Je reprends par exemple ce cas de ces deux jeunes enfants dont la grand-mère attend le retour impatiemment. Est-ce que une décision politique pourrait avoir lieu? Je veux dire, par exemple, est-ce que Emmanuel Macron a la possibilité, le pouvoir de demander leur rapatriement en France? S'il le faisait, est-ce qu'il l'obtiendrait immédiatement, Sophia Amara?
Ah oui, sans aucun doute, évidemment. Oui. Pour avoir interviewé les autorités compétentes plus d'une fois, ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les allège de ce poids, qu'il s'agisse évidemment des djihadistes français, des enfants, des femmes, des Européens. De toute manière, bien sûr que les autorités sur place y accéderaient. Je pense que la volonté n'est pas clairement là.
Elle n'est pas formulée. Elle n'est pas formulée en tout cas.
Non, elle est formulée, mais de manière ambiguë. Et il y a de l'autre côté une hostilité claire de l'opinion publique. Un dernier sondage a indiqué que les deux tiers des Français souhaitaient que ses enfants restent en Irak ou en Syrie, selon un sondage Figaro ou France Info. Et du coup, il y a évidemment une hésitation claire de la part de Paris. Après, moi, j'aimerais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Maître Baudouin. Donc, pour les chiffres, sur les enfants ou les mineurs qui sont rentrés en France depuis le début de toute cette affaire, c'est-à-dire depuis 2014, lorsque le califat a été autoproclamé, il y a un peu moins de 100 enfants français qui sont revenus en France.
Oui, c'est une note du Quai d'Orsay qui parle de 84 enfants qui sont déjà revenus de la zone irako-syrienne.
Et parmi eux, il y en a qu'un seul qui, aujourd'hui, a atteint sa majorité. Moi, je voudrais vous renvoyer sur une des séquences du documentaire donc Les enfants perdus du califat que je réalisais il y a quelques mois ou plutôt quelques années auprès de ces enfants. Il y a chez ces enfants même de 12 ans, 13 ans, donc à l'âge de l'adolescence, il y a par exemple le cas de l'Allemagne. L'Allemagne, avant même l'effondrement du califat, a fait venir sur son territoire quelques 1500 mamans avec leurs enfants. Certes, ils étaient yazidis, forcés pour les enfants à porter les armes et non pas élevés par des parents convaincus et djihadistes convaincus, parce que dans le cas des yazidis, les hommes étaient tués, les femmes étaient prises en otage, esclaves sexuels, et on connaît la terrible histoire de cette population qui a été victime d'une véritable tentative génocidaire. Et pourtant, les enfants ont été envoyés dans les camps et certains sont devenus convaincus à tel point qu'ils menaçaient de tuer leur maman parce qu'elle était mécréante. Et donc, du coup, eux, c'était des yazidis. Mais pour ces enfants-là, qui sont donc convertis à l'islam ou qui sont nés musulmans, un enfant reste un enfant et ce sont des mineurs. Et ces enfants en Allemagne yazidis s'en sortent. Ils y arrivent. Ils ont réussi petit à petit à les faire renouer avec une vie normale. Alors moi, les psychiatres et les assistants sociaux que j'ai pu voir en Allemagne pour avoir suivi un petit yazidi ancien enfant soldat, puisqu'il a assisté à des combats, puisqu'il a été entraîné au terrible camp d'entraînement pour les enfants soldats de Al-Farouk en Syrie, et il a porté les armes. Alors il affirme qu'il n'a pas tué, mais autour de lui, il y a des enfants qui ont été forcés à faire les bourreaux.
Est-ce que lui, en l'occurrence,
ses enfants s'en sortent?
Alors justement, ils s'en sortent comment, Sophia Amara? Je crois que il y a par exemple l'une des figures, Sophia Amara, qu'on rencontre effectivement, qui a bénéficié de ce programme en Allemagne, c'est Ayad, un jeune yézidi d'une quinzaine d'années, parti donc à Stuttgart pour rejoindre sa mère. Lui, il bénéficie de quel type d'accompagnement et en particulier d'accompagnement psychologique?
Alors, c'est une très bonne question. Le problème, c'est que pour avoir rencontré les psychiatres responsables de ce programme, ils expliquent qu'ils n'ont pas encore de technique pour arriver à désembrigader des enfants, parce que c'est un phénomène tout à fait nouveau, et que depuis la chute du Troisième Reich, les enfants n'ont jamais été autant embrigadés. Utilisés dans des conflits, oui, mais embrigadés à ce point... non. Donc, ils n'ont pas véritablement de technique. Donc, pour eux, la seule stratégie à ce stade, c'est de les faire renouer avec une routine qui consiste à se réveiller le matin, aller à l'école, manger ses céréales et boire son lait, jouer à des jeux d'enfants et de les mettre en contact avec des animaux parce qu'ils ont perdu confiance en tout ce qu'il y a de vivant. C'est ce que me disait le terme, c'est le terme qu'employait avec moi un médecin qui m'avait beaucoup choqué. Mais par conséquent, ils y arrivent. Et c'est des enfants qui s'intéressent au dernier iPhone, qui veulent aller au cinéma, qui sont en train d'apprendre la langue allemande et qui sont en train de revivre normalement. Et là, pour les yézidis, je vous parle d'à peu près 800 enfants. Les enfants français qui sont retenus dans ces camps sont au nombre d'environ 71. Donc ça relativise beaucoup le débat qui reste de toute manière évidemment essentiel.
Patrick Baudouin, je reviens sur la question de ce que peut le droit pour ces enfants. Il se trouve qu'il y a quelques mois, c'était en décembre dernier, la justice belge a ordonné à l'État belge de rapatrier des enfants de djihadistes belges retenus dans un camp de réfugiés par les autorités kurdes au nom de l'intérêt de l'enfant, donnant aux autorités belges 40 jours pour s'exécuter sous peine de payer une amende de 5000 euros par enfant et par jour. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce type de décision de la justice française ?
Mais parce que je pense qu'en France, alors peut-être les règles ne sont pas exactement les mêmes.
On est tous en Europe, non ?
On est tous en Europe, mais on a quand même chacun des droits qui restent particuliers, avec en plus une particularité très française qui est qu'il y a d'un côté une justice administrative et de l'autre une justice qu'on appelle de l'ordre judiciaire. Alors, si vous intentez une action de ce type, et pourquoi pas, j'avoue, j'y avais pas réfléchi jusqu'à présent, je pense que ça relèverait peut-être plutôt de la responsabilité de l'État et donc une mise en cause devant la juridiction administrative. Pourquoi pas peut-être tenter...
C'est ce qui s'est passé en Belgique et ça a fonctionné.
Pourquoi pas tenter la même chose, effectivement. Pourquoi ne pas tenter? Je rebondis aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure. C'est vrai que c'est très très difficile de déradicaliser, que ce soit d'ailleurs les adultes, et aussi les enfants quand ils sont adolescents et qu'ils ont connu tout ça. Mais c'est pas tout à fait nouveau et je crois qu'il faut s'atteler justement à trouver les mécanismes qui permettent de déradicaliser. C'est comparable un petit peu à ce qu'on connaît avec les enfants soldats. Et ça, c'est un phénomène quand même extrêmement répandu, hélas, dans le monde. Je crois qu'il faut avancer dans ce sens. Une autre observation très, très rapide que je voudrais faire, c'est tout à fait juste ce qu'a dit Sophie Amara tout à l'heure, c'est du côté français tout de même, il y a ce manque de volonté politique. On voit très bien, vous avez posé une très bonne question consistant à dire, mais si le président Macron demande que tel enfant revienne en France, est-ce que vous pensez... Mais bien sûr que oui. Donc, pour ces enfants, il suffirait que les autorités françaises, et en l'espèce quand même le président de la République, adoptent une attitude parfaitement claire pour dire on souhaite le retour dans toute la mesure du possible de tous ces enfants français. Il est certain que le résultat serait positif. Si on pense à ces enfants qui se trouvent encore dans la zone contrôlée par les forces démocratiques syriennes, largement contrôlées par des Kurdes, on sait très très bien qu'on a des contacts très très réguliers, des possibilités de négociation avec les Kurdes, qui seraient sans doute ravis d'ailleurs de faire en sorte que tous ces djihadistes, parents et enfants, puissent revenir en France. Donc c'est quand même très très choquant que, au nom, semble-t-il, comment dire, d'une part, on veut se débarrasser du problème parce que c'est vrai qu'il faut le gérer et c'est pas facile. Et d'autre part, on voit que l'opinion publique y est assez hostile. Alors on se dit, après tout, on va pas créer un problème supplémentaire. On en a déjà suffisamment dans le contexte social actuel. C'est quand même très lâche et c'est une perte. Moi, ce que je voudrais souligner pour essayer de convaincre, c'est que quand on commence à renoncer à quelques-unes des valeurs clés, ce qu'on appelle les socles d'une démocratie, d'une république, et en l'occurrence, la nécessité de protéger les enfants qui sont de nationalité française, ben quand on commence à renoncer à ces principes, quelque part on est en train de commencer aussi à donner raison à ces bourreaux de l'État islamiste qui disent de toute façon les démocraties ce ne sont jamais que des démocraties de façade, des démocraties fantoches. Non, on est des démocraties solides et des démocraties de valeurs. C'est très important, je crois que c'est pas 100 enfants qui vont revenir en France qui vont déstabiliser le pays. Et c'est notre honneur de faire revenir ces enfants et de les réadapter et d'en faire de futurs bons citoyens français.
Alors, il y a les enfants, mais pas seulement. Ce qu'on voit très bien dans le documentaire de Sophie Amara, et je vous donnerai la parole dans un instant, Sophie Amara, c'est que les petites filles ont été particulièrement victimes, notamment de trafic sexuel à grande échelle. On les enlevait, elles étaient mariées quand elles étaient suffisamment grandes à partir de 9 ans. D'autres étaient carrément prostituées. Et son enquête de Sophie Amara, elle a révélé comment Daesh avait mis en place ce véritable marché aux esclaves avec des sites sur lesquels les djihadistes vendent, achètent des petites filles dans de véritables ventes aux enchères. En théorie, la justice française, parce que certains, évidemment, qui se sont adonnés à cela étaient des Français, la justice française pourrait ouvrir des instructions autour de ces crimes d'esclavagisme, Patrick Baudouin. C'est pas le cas jusqu'ici.
Alors,
est-ce qu'elle pourrait ?
Oui, elle peut. Alors, elle peut et elle commence à travailler sur le sujet. Bon, la Fédération internationale des droits de l'homme a sorti, il y a très peu de temps, un rapport alarmant et ahurissant même sur les yézidis et sur les violences faites aux femmes yézidis, les viols, les ventes de femmes, les violences sexuelles sur les adolescentes, même les petites filles yézidis, tout ce que vous venez de rappeler. Et parmi les tortionnaires, les bourreaux, les barbares, il y a des djihadistes qui sont d'origine française. Et je dois vous dire qu'actuellement, il y a un pôle en France qui est le pôle crime contre l'humanité, crime de guerre, crime contre l'humanité, qui travaille sur ce sujet. Donc je pense qu'on aura des avancées et des avancées significatives. Et j'en profite pour dire pourquoi aussi, d'un point de vue juridique, souhaitons que ces djihadistes français en l'espèce, partis faire le djihad, qui se sont livrés à des actes abominables, pourquoi souhaite-t-on qu'ils soient jugés en France? C'est parce que ça ne relève pas seulement du terrorisme. On a trop tendance à dire sont des actes terroristes. Oui, bien sûr, mais le terrorisme, ça permet de juger très vite, ça permet de ne pas approfondir, ça permet aussi de tout mélanger parfois, car le terrorisme, c'est une notion difficile à définir. Mais en revanche, ce qui est certain, si on prend ce que vous venez d'évoquer sur les yézidis ou sur toutes ces violences faites aux femmes, c'est que la définition juridique, c'est crime contre l'humanité. Ça relève du crime contre l'humanité. Si on prend les yézidis, non seulement les actes ont été commis, et on a toutes les preuves de ce que ces actes ont été commis, et y compris par des djihadistes français, car il y a des femmes yézidis qui ont reconnu des Français parmi leurs tortionnaires ou leurs bourreaux, mais en plus c'était programmé, c'est-à-dire qu'on retrouve des textes qui émanent des responsables de Daesh, qui c'est un peu comparable au, je dirais, à ce qui s'est passé, toute proportion gardée, hein, bien évidemment, mais ce qu'on dénonce des crimes nazis, c'est programmé, c'est voulu. Il fallait que ces femmes soient violées, il fallait qu'elles soient exploitées, il fallait qu'elles soient soumises à l'esclavage et à la vente. Donc l'idée de faire juger en France, ça serait de démontrer toute l'horreur de ces crimes, toute la portée relevant des crimes contre l'humanité, et ça aurait aussi une valeur pédagogique bien supérieure à juger uniquement pour terrorisme, et aussi des vertus peut-être pour combattre ce mal-là, pour montrer ce qu'il est réellement.
Sophia Amara, je vous laisse réagir, et puis ensuite je voudrais qu'on évoque la question de la prise en charge des enfants en Irak et en Syrie, mais je vous en prie, Sophia Amara.
Bien sûr, je le souhaitais, puisque ce rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme a été possible grâce à un homme, et c'est celui que vous voyez bien avant que le rapport de la FIDH ne paraissent, c'est celui que vous voyez dans mon documentaire et qui nous montre un téléphone de djihadiste sur lequel on a retrouvé tous les sites de vente aux enchères de petites filles qu'on troque contre une paire d'espadrilles ou qu'on voudrait à l'âge de 11 ans qu'ils soient vierges de préférence, vendues à 13 000 euros quand elle l'était ou à 11 000 euros ou 9 000 euros quand elle était déflorée. Ces crimes abominables ont été commis pour certains par des Français. Et grâce à l'homme qui a été justement le contact de la fédération, eh bien grâce à cet homme-là, j'avais établi il y a des mois déjà des listes de personnes qu'il a pu retrouver qui étaient impliquées dans ces crimes, dont quelques Français, des Allemands également.
Ils sont poursuivis, eux ?
Tous ces documents, sur mon conseil, ont été remis par ce monsieur, ce contact, à l'AE, d'une part, ensuite au PROC de la République en France et en Allemagne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le rapport est sorti et que la FIDH demande justement l'État français, l'Europe et demande même aux Nations Unies d'agir en conséquence. Et justement, comme vous disiez comme ça a été dit tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il vaut mieux, qu'il est plus intéressant encore de poursuivre ces gens-là pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité que contre terrorisme, qui est un terme assez vaste. Et puis, pour certains, dans certains cas, le terrorisme est en fait de la résistance et vice-versa. En fait, c'est assez vague. Mais là, il y a clairement, et c'est ce que précise, et j'en étais ravie, la Fédération, c'est qu'il y a crime de guerre et crime contre l'humanité caractérisé.
Bon, voilà, je crois que c'est parfaitement clair, Sophia Amara. La plupart des enfants du califat étaient originaires, quand même, disons-le, de la région, d'Irak ou de Syrie, et beaucoup vivent aujourd'hui dans des camps de réfugiés. On va d'abord écouter l'un des jeunes adolescents que vous avez rencontré, Sophia Amara. Il est retenu dans une prison irakienne, il s'appelle Mouaz, il avait 12 ans lorsqu'il s'est engagé dans les rangs de Daesh, on l'écoute.
Je n'ai jamais tiré. Je n'ai jamais tué. J'étais juste de garde dans les tranchées. J'ai beaucoup de remords. J'ai prêté allégeance, mais lorsque je suis entré dans leur rang et que j'ai vu ce qui se passe là-bas, j'ai regretté. J'ai compris que ce n'était pas l'islam. J'ai compris combien ils avaient tort.
Toi, tu les as rejoints par conviction ?
Oui, moi j'étais convaincu.
Et ton père aussi était convaincu ?
Oui, mon père, mon frère, mon oncle. Mon père a été tué par un raid aérien au village de Hassan Chalal. Et mon frère, il est mort au combat, à Rezia.
Quel âge avait ton frère ?
Mon frère, il avait 18 ans. Ils ont démoli la vie. Ils ont détruit mon père, mon frère, mon oncle. Ma famille, je n'ai plus de famille.
Voilà, Sophie Amara, ce qui est très frappant dans ce témoignage, c'est que ce jeune homme, Mouaz, qui est vraiment un jeune adolescent, il ne dit pas qu'il est innocent. Hein. Il dit qu'il a prêté allégeance, il dit qu'il a eu tort, il dit qu'il ne recommencera pas. Et d'une certaine manière, il assume sa responsabilité malgré son âge, ce qui est particulièrement frappant. Sophie Amara, ce jeune homme, il a été jugé, il a eu un procès. Qu'est-ce qu'on sait des actes qu'il a commis ? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une forme de prise en charge quelconque autour de sa détention, Sophie Amara ?
Alors, la prise en charge, et pour l'instant, il n'a pas encore été jugé, puisqu'il
il attend son procès.
Il attend, comme beaucoup d'autres adolescents. Donc, il est très difficile d'établir le degré d'implication dans des actes terroristes ou des actes de guerre, évidemment. Et donc, il attend son procès. Il n'y a absolument aucun suivi pour les enfants mineurs. Il y a simplement des cours, ce qui est déjà bien, c'est-à-dire des classes avec des professeurs d'histoire géo, de langue, et des cours de musique. Voilà le seul cadre pédagogique qui est proposé aux mineurs qui sont sortis du califat, qui ont été otages du califat, ou qui ont participé comme ce jeune homme, ou qui ont prêté allégeance. Après, prêter allégeance, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Imaginez-vous, ce jeune homme était dans un territoire irakien, dont l'État avait démissionné, qui était livré aux milices chiites revanchardes après la chute de Saddam Hussein. Ces hordes, ces hommes en noir arrivent, prennent les villages et promettent la paix, la justice, et que ces jeunes ne soient plus harcelés par des milices sectaires qui ont remplacé de facto l'État irakien et l'armée irakienne. Eh bien, ils les ont suivis. Puisque leurs parents les ont suivis, ben eux, ils ont suivi.
Alors, évidemment, et quand les parents ne suivaient pas, éventuellement, ils étaient prêts aussi à couper les enfants de la famille.
Ce qui est arrivé est pire que cela, puisque vous me faites l'honneur de mentionner ce documentaire. Ce qui m'a donné envie de se faire ce doc, c'est justement le fait que des parents n'arrivaient même pas à s'opposer à l'embrigadement de Daesh, puisque quand ils rentraient à la maison et que les parents étaient tentés de leur dire « attention, faut pas faire comme eux, faut pas les rejoindre », eh bien le lendemain, les daeshistes étaient dans la rue et demandaient « alors papa nous aime bien, papa nous insulte », et parfois des parents ont été, passez-moi l'expression, balancés par leurs enfants sans même que ces derniers ne s'en rendent compte, et les parents finissaient au bout d'une corde. Donc il était impossible, ils se sont immiscés dans la cellule familiale à tel point qu'ils ont pris en otage toute une jeunesse.
Oui, on a parfois du mal à réaliser le. Vous parliez tout à l'heure d'endoctrinement, le niveau d'endoctrinement sous le califat. Vous racontez ça dans votre documentaire, c'est absolument frappant. Il y avait des bus qui sillonnaient les villes pour aller recruter des enfants qu'on envoyait ensuite au combat. Et la propagande, elle était faite par les enfants eux-mêmes qui faisaient l'apologie de la guerre sainte devant d'autres enfants pour les enrôler. On n'imagine pas ce que ça a pu être.
Exactement. Et c'est en ça que c'est terrible, parce qu'il n'y avait, ils ont pris en charge et ils ont pris en otage tous les aspects de la vie de ces enfants et de ces adolescents, absolument tous. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'école, ils se sont immiscés dans la cellule familiale, ils étaient dans les rues avec ces bus qui passaient, ces bus de la prédication, et ils avaient chargé les enfants d'embrigader les autres enfants. Et au final, il n'y avait plus aucun moyen d'échapper à cet embrigadement, à ce moule dans lequel Daesh a voulu créer sa nouvelle génération. Il n'y est pas parvenu, certes, mais en tout cas, il y a sur 7 millions d'habitants qu'ont géré les djihadistes pendant les 3 ou 4 ans de vie du califat, et il y a une majorité de jeunes dans ces 7 millions, il y a toute une jeunesse qui a vécu sous le joug de cette folie meurtrière et qui s'en sort tant bien que mal, mais qu'il faut évidemment aider et trouver un moyen psychologique, pédagogique de déradicaliser. Et aujourd'hui, à ce stade, nous n'avons pas encore trouvé, en tout cas les spécialistes n'ont pas trouvé un moyen clair d'y parvenir.
Patrick Baudouin, quand on entend Sophie Amara, on se dit que c'est un défi quasi insurmontable pour la justice de prendre en charge ces cas.
Oui. Bon, faut garder un minimum d'optimisme. Je pense qu'il y a quand même des mécanismes, mais c'est vrai que c'est très très complexe quand on arrive à des enfants, des adolescents qui sont marqués à ce point. Ceci étant, ce qu'on vient d'entendre de la part de Sophie Amara me confirme dans une conviction qu'on évoquait tout à l'heure, qui est que s'il doit y avoir des procédures, il y en aura quand même. Mmh. Il faut vraiment que ça soit des procédures qui relèvent du crime contre l'humanité. On n'est pas en présence d'actes terroristes isolés où on fait sauter une bombe, c'est pas ça. C'est un, d'ailleurs ça s'intitulait Daesh, c'était l'État. Hein. C'est un État qui a revendiqué ce statut. Donc il faut vraiment aller au fond des choses dans le cadre des procédures. Ça ne résoudra bien sûr pas tout, hein. Faut pas s'illusionner, mais je pense que ça serait un grand progrès, qu'on arrête simplement de parler de terrorisme.
On est avec vous, Patrick Baudouin et Sophia Amara, des Lionceaux de Daesh aux jeunes yézidis, une génération perdue, dans cette série consacrée aux enfants sans danger.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et on va retrouver tout de suite Katia Sokirianskaya, directrice du Centre d'analyse et de prévention des conflits. La Russie a mis en place un programme assez ambitieux pour faire rentrer ses enfants de djihadistes de Syrie et d'Irak. En 2017, Ramzan Kadyrov, le président de Tchétchénie, avait fait rapatrier un enfant de 4 ans, Bilal, apparu sur une vidéo dans les ruines de Mossoul. Une vidéo qui avait particulièrement ému l'opinion russe et tchétchène. Un programme de retour des enfants est donc mis en place. Régulièrement, ils débarquent sur le sol russe où ils sont pris en charge. Depuis décembre dernier, la Russie a beaucoup accéléré ses retours d'enfants de djihadistes qui apparaissent régulièrement sur les chaînes de télévision russes débarquant à l'aéroport du coin. Alors pourquoi Ramzan Kadyrov et Vladimir Poutine se sont-ils si préoccupés par le sort de ces enfants? Comment fonctionne précisément ce système de retour? Katia Sokirianskaya nous explique, elle est au micro de Samuel Bernard.
Je pense que Ramzan Kadyrov était véritablement ému par les images des enfants tchétchènes sur les ruines des villes syriennes et irakiennes. En particulier, une vidéo avec cet enfant, un orphelin, Bilal, qui a perdu sa mère. Son père était en prison. Il a ordonné de trouver l'enfant et de le ramener en Tchétchénie. Il est parvenu récemment à convaincre Vladimir Poutine de faire rentrer ses enfants et ses veuves du conflit au Moyen-Orient. Cela a marqué le début de ce qui s'est avéré comme l'un des plus importants programmes de retour de veuves et d'enfants de combattants. Ramzan Kadyrov a l'image d'un leader à la main lourde, une image de dictateur. Et ce programme lui permet d'adoucir cette image. Cela le rend plus sympathique, lui offre les soutiens et l'admiration de beaucoup de personnes de la région et même des défenseurs des droits humains qui pensent que c'est une position sans précédent, surprenante et très positive pour la Russie et la Tchétchénie qui vont rarement dans ce sens. Dans un même temps, ces retours sont un enjeu de sécurité pour Ramzan Kadyrov. Il pense au futur. Et les enfants abandonnés au Moyen-Orient, en prison avec leur mère en Irak et en Syrie, puis probablement dans des orphelinats. Ces enfants sont promis à un avenir très incertain. Il est très probable qu'ils grandiront dans la colère, la frustration et deviendront des individus radicalisés. Pour Ramzan Kadyrov, tout Tchétchène en dehors de son contrôle physique et psychologique, vivant à l'étranger et avec un potentiel de radicalisation, est un danger potentiel. Il pense qu'il est plus simple, plus facile de garder cette femme ou cet enfant près de lui et sous son contrôle, pour pouvoir prévenir tout acte potentiel de violence ou d'agression contre lui.
Katia Sokirianskaya, en 2018, ces retours de femmes et d'enfants ont connu une baisse significative. Pourquoi le programme a-t-il été réouvert récemment?
Il semble qu'il y a eu un désaccord entre les différentes institutions en charge de ce programme. Et il faut préciser que ce programme ne concerne que les femmes et les enfants. Les hommes ne sont pas inclus. Donc, alors qu'il y a un consensus sur le fait que les enfants doivent rentrer, avec les femmes, la situation est plus compliquée. Le FSB les voit comme un véritable danger du point de vue sécuritaire. La Russie a une longue histoire de femmes kamikazes. Il y a eu des dizaines d'attaques commises par des femmes venues de Tchétchénie ou du Daghestan. Le chef du FSB, Alexandre Bortnikov, a fait une déclaration très claire récemment expliquant que les terroristes utilisent ces corridors humanitaires, qui sont réservés aux femmes, pour faire leurs opérations. Il semble donc que le FSB essaye d'empêcher le retour des femmes, et peut-être aussi la poursuite de ce programme de rapatriement. Mais Ramzan Kadyrov, qui en souhaitait le maintien, a gagné ce bras de fer apparemment.
Quelles sont les dispositions légales pour faire rentrer ces enfants? Est-ce que l'État russe a besoin lui aussi de l'accord des parents?
Alors tout d'abord, pour pouvoir rentrer, les enfants doivent pouvoir prouver leur citoyenneté russe. Donc les enfants les moins jeunes rentrent plus facilement car ils ont déjà la citoyenneté. Quant à ceux qui sont nés plus tard, sous l'État islamique, leur citoyenneté doit être confirmée avec un test ADN et il faut la preuve qu'au moins un des parents a la nationalité russe. Ensuite, oui, il faut une autorisation, venant la plupart du temps des mères, puisque beaucoup de pères ont été tués. Les mères sont désireuses de voir leurs enfants rentrer en Russie, car il semble que leurs conditions de détention, en Syrie ou en Irak, sont si mauvaises qu'elles veulent que l'enfant revienne auprès de ses grands-parents ou d'autres proches sur le sol russe.
Beaucoup d'enfants qui viennent de Syrie ou d'Irak n'ont donc jamais mis les pieds sur le sol russe ou sont sujets aussi à de nombreux traumas. Il va donc falloir les soigner, les rééduquer, les réintégrer. Quelles sont les politiques mises en place pour les accueillir?
Non, il n'y en a pas. Il y a des efforts ad hoc qui dépendent en grande partie de la région où est accueilli l'enfant. Dans les aéroports, les enfants retrouvent leurs parents les plus proches, la grand-mère, les oncles ou tantes. Ils récupèrent alors l'autorité parentale sur l'enfant. Alors les enfants deviennent des enfants russes comme les autres et ils sont élevés par ses parents adoptifs. Évidemment, ils sont suivis de près par des docteurs. Des psychologues viennent aussi les voir. Mais au niveau national, ça ne va pas beaucoup plus loin apparemment. Il n'y a aucune politique suivie de rééducation psychologique, pas de psychologie traumatique, et une fois de plus, cela va dépendre de la famille, de ses capacités financières. Cela dépend aussi des régions. Certaines régions offrent leur secours, d'autres non. Certaines régions les incluent facilement en école maternelle, d'autres ne les acceptent pas. Alors je dirais qu'il y a une prise de conscience que des programmes de rééducation et de réintégration sont nécessaires. Je crois que des recherches sont faites dans les institutions. Mais pour le moment, rien n'a été mis en place sur le terrain.
Katia Sokiryanskaya, donc depuis Moscou au micro de Samuel Bernard. Katia Sokiryanskaya qui est directrice du Centre d'analyse et de prévention des conflits. On voit évidemment cette difficulté du retour des enfants de djihadistes avec des accompagnements, mais qui sont évidemment très difficiles à mettre en place. Merci en tout cas à vous. Un grand merci à nos invités de nous avoir accompagnés, de nous avoir éclairés sur cette délicate question. D'abord Patrick Baudouin, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président d'honneur et conseiller juridique de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Un grand merci également à Sophia Amara qui était avec nous en duplex de Beyrouth. Chez notre correspondant Radio France, Aurélien Colli. Je rappelle que vous êtes donc documentariste et notamment vous aviez réalisé Ces enfants perdus du califat dont on a parlé aujourd'hui, qui avait reçu le prix AMA du Festival de télévision de Monte Carlo. Et puis également auteur de Bagdadi, calife de la terreur, qui était paru chez Stock. Merci infiniment à vous également. h 53 l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour cher Brice.
Bonjour Florian.
Et bon retour. On dit Merci. Souvent que la démocratie est en crise, Brice, parce qu'elle n'est plus suffisamment démocratique précisément.
Ben oui, le diagnostic est bien connu. Rousseau l'avait déjà formulé dans Du contrat social, face au seul exemple de quasi-démocratie qu'il avait sous les yeux, à savoir l'Angleterre. Les penseurs libéraux, comme Montesquieu, faisaient l'éloge de son système de gouvernement contrôlé par un parlement élu, et Rousseau lui disait « Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort. Il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde. » Eh ben aujourd'hui, ajoutent nos néo-rousseauistes, les carences de cette démocratie représentative s'avèrent encore plus funestes. Parce que les peuples mieux informés aspirent à davantage de participation au processus de décision qui les concerne au premier chef. Parce que le numérique et les réseaux sociaux permettent à une large fraction de ces mêmes peuples de participer à la délibération qui doit précéder la décision. Il faudrait donc décentraliser la vie politique afin de rapprocher les décisions de ceux qu'elles concernent directement. Par exemple, multiplier le recours au référendum local. Associer les électeurs à la rédaction des programmes de gouvernement et surtout, permettre aux électeurs de choisir eux-mêmes les candidats aux élections. Eh bien, deux professeurs de théorie politique de Yale viennent de publier un livre qui réfute chacune de ces idées. Selon Francis McCall Rosenblatt et Ian Shapiro, c'est le contraire même de ce qu'il faut faire. Pour sauver la démocratie, c'est le sous-titre de leur livre, il faut rendre aux partis toutes leurs responsabilités, d'où le titre de leur ouvrage « Responsible Parties ». Car selon eux, ce n'est pas la démocratie parlementaire qui est en crise, mais bien les partis politiques censés l'animer. Les anciens partis de gouvernement, en particulier sous prétexte de se rapprocher des électeurs, sont partout à la peine. Ainsi en France, pour la première fois depuis des décennies, les partis socialistes et néo-gaullistes ont été écartés du deuxième tour des dernières élections présidentielles. Eh bien c'est parce qu'ils ont renoncé à l'essentiel de leurs fonctions, parce qu'ils ont été jugés incapables par leurs électeurs de remplir les deux missions qu'on attend d'eux, à savoir selon mes auteurs, proposer des programmes de gouvernement crédibles et adaptés à la situation et avoir la capacité de les mettre en œuvre dans l'intérêt du pays. À force de vouloir épouser les inclinations changeantes de toutes leurs catégories d'électeurs, ils ont perdu le nord. Sous prétexte de se mettre à l'écoute, ils se sont mis à la traîne. De nouveaux mouvements politiques bricolés à la hâte autour de personnalités charismatiques.
Alors Brice, que devraient faire ces partis traditionnels pour retrouver la confiance des électeurs?
D'abord renoncer aux primaires. L'expérience l'a prouvé, dans la plupart des cas, ce ne sont pas les candidats qui avaient les meilleures chances de l'emporter devant l'ensemble de l'électorat qui en sortent, mais au contraire, les préférés de cet électorat particulier qui vote aux primaires, c'est-à-dire les plus radicaux. Quand ce ne sont pas en plus des amateurs extravagants et dépourvus de compétences à la Donald Trump. Mais que restera-t-il du Parti républicain quand Trump aura quitté la Maison-Blanche ? On a trop critiqué dans le passé la puissance des appareils au sein des grands partis, mais c'était la rançon à payer pour qu'ils restent forts et crédibles. Les personnalités qui les dirigeaient passaient, les partis, demeuraient fidèles à leur histoire. Les fameux appareils qui les dirigeaient veillaient aux intérêts à long terme de ces vieilles maisons. Et cette fidélité à eux-mêmes leur valait celle de leurs électeurs. On votait souvent pour le même parti, souvenez-vous, sa vie durant. On le savait disposer d'une expertise reconnue et d'une capacité réelle à diriger l'État. C'est pourquoi le meilleur système politique, d'après nos auteurs, le moins susceptible de connaître la crise, c'est celui qui se rapproche le plus du bipartisme, tel notre ancien quadri bipolaire, parce que c'est celui qui offre le choix le plus clair. Plus il existe de partis, en effet, moins l'électeur sait pour quelle politique il vote au juste. Car les politiques menées dépendront nécessairement de la tournure prise par des négociations en vue de former une coalition gouvernementale. Et dans le même esprit, les auteurs mettent en garde aussi contre la représentation proportionnelle. Non seulement celle-ci incite à multiplier les mini-partis, mais encore elle dépossède en réalité les électeurs de leur choix, car là encore, les négociations en vue de la formation du gouvernement auront lieu généralement dans le secret et aucune politique gouvernementale claire ne sortira souvent de ces accords. Bref, la solution à la crise de la démocratie représentative passe plutôt par un renforcement des partis que par leur démocratisation.
Et bien voilà, c'est dit. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve la grande table, non pas aujourd'hui avec Olivia Gesbert, mais bien avec Marie Richeux dans quelques secondes.